Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants. Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Bonjour, on est toujours heureux de vous accueillir dans notre radio. Alors donc, je vais commencer par te demander de toi ton parcours. Comment donc pourquoi être infirmier soigneur, ce métier-là, pourquoi? Comment ça s'est passé depuis le début de ton parcours scolaire? Est-ce que c'était vraiment un objectif depuis le départ ou bien c'était par plusieurs chemins pour après à la fin décider de ce choix-là?
Eh ben, mon projet professionnel n'était pas forcément d'être tout de suite infirmière éducation nationale parce que en fait j'ai fait plusieurs stages. Quand on est infirmière, élève infirmière, on a 3 ans d'études. On fait aussi avec des stages alternés avec la théorie. Donc moi j'ai fait pas mal de choses en chirurgie cardiaque, réanimation cardiaque. J'ai adoré vraiment cette spécialité. Donc c'était ma première volonté, être hospitalière, mais dans la chirurgie cardiaque, la réanimation cardiaque. Ensuite, j'avais quand même fait aussi un stage en santé publique qui était en fait à l'éducation nationale. Donc on était en école de maternelle avec une copine et c'est vrai que j'avais vraiment bien adoré le contact avec les jeunes, avec les ptios. Et donc du coup, j'avais vraiment envie peut-être un jour de devenir puéricultrice. Mais d'abord, je voulais déjà travailler au sein de l'hôpital pour pouvoir déjà connaître un peu plus l'être humain, parce que c'est bien les stages, mais on n'est pas infirmière en statut, donc on n'a pas les mêmes responsabilités, on ne fait pas les mêmes actes, les mêmes soins, parce que quand on est élève, on nous laisse faire, bien sûr, on apprend, mais on a encadré. Donc je voulais déjà faire mes armes auprès de ma spécialité première, donc la cardiologie. Et après, j'ai vraiment voulu développer cette envie d'être auprès des enfants. Donc je voulais devenir puéricultrice. Mais d'abord, il fallait normalement passer par la pédiatrie. Et la pédiatrie était très demandée à l'époque. D'abord, les élèves en école de puériculture passaient en premier. Et après, s'il y avait de la place, s'il y avait des départs, on pouvait y accéder. Moi, j'ai attendu longtemps. Et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas infirmière d'éducation nationale, parce qu'il y a aussi des enfants et des ados. Donc voilà, moi, ça s'est fait comme ça. J'ai passé le concours, déjà l'écrit. Je l'ai eu, j'étais admissible.
Ça parle de quoi, donc, le concours?
Alors,
quelle matière qu'on demande pour les infirmières?
Essentiellement, quand même, tout ce qui est en pédiatrie, on va dire, tout ce qui est développement psycho-affectif de l'enfant, de l'adolescent. Il y a aussi, par rapport aux faits d'actualité, c'est vrai qu'à l'époque, c'était aussi le handicap, parce qu'en 2005, ils ont commencé à parler beaucoup du handicap avec la loi qui est sortie. Donc, il y avait ça, il y avait aussi tous les faits des addictions, la protection de l'enfance, enfin, c'est assez global, mais tout autour de l'enfant et de l'ado. Donc voilà, donc il y a pas mal de questions comme ça. Il y a aussi des tests psychotechniques, donc là, des tests de logique, on va dire. Donc voilà, on voit un petit peu la personne, comment aussi, c'est pas vraiment de réussir le test avec des racines carrées, racines cubiques, mais c'est de savoir comment on gère son temps. Voilà, donc ça, c'est pour voir un petit peu comment est la personne. Donc psychotechnique, ça veut bien dire, on voit comment psychologiquement elle peut gérer aussi toutes les choses.
Il y a aussi donc dans le concours un truc pratique ou seulement l'écrit?
Non, il y avait l'écrit. Après, on est admissible et après on a un jury, c'est-à-dire on va à l'oral, une épreuve orale. Donc là, le jury est généralement composé de chefs d'établissement, la conseillère technique auprès du recteur, qui est aussi infirmière éducation nationale, qui connaît bien les missions, qui connaît tous les textes. D'ailleurs, je l'avais même interpellée avant de passer le concours. Il y a aussi des assistantes sociales qui peuvent être là, des psychologues éducation nationale. Voilà, tous les partenaires et toutes les personnes qui sont amenées à travailler avec les infirmières de l'éducation nationale.
C'est un sujet qui est préparé avant, comme ça se passe dans le concours? Eh ben, ou bien c'est seulement vient après, c'est des questions qu'on doit répondre?
Il y a un thème, il y a une question. On prépare l'oral comme un peu le bac de français. On développe nos arguments, voir si justement on connaît un petit peu déjà le rôle de l'infirmière éducation nationale quand même, et voir quelles sont nos réactions, comment on pourrait gérer en période d'un problème particulier pour un élève. Donc voilà, ils essaient de demander, et puis après voir si on connaît l'institution, si on connaît comment ça fonctionne, quels sont les différents partenaires qu'il y a, et puis si on sait comme quoi il y a le ministère au niveau national, le rectorat au niveau académique, et après un établissement, comment il fonctionne, quoi.
D'accord. Alors, comment ça les premières années, c'était comment?
Alors, la première année où je suis arrivée, là, il faut tout mettre en place. Déjà, il faut faire sa place. au sein de l'établissement parce que les gens ne vous connaissent pas, vous êtes une nouvelle. Donc c'est vrai qu'on essaie de savoir comment vous fonctionnez, comment vous travaillez, qu'est-ce que vous allez demander ou apporter pour la communauté éducative entière et puis tous les agents qui travaillent au sein de l'établissement. Donc oui, on va dire que la première année est très dense. On met en place plein de choses par rapport à ce qui a été fait avant. On ne travaille pas forcément avec l'ancienne infirmière et donc il y a tout le passif.
Donc toute seule quand tu...
J'étais toute seule les deux premières années.
Donc il n'y a pas, c'est pas comme d'autres professions d'éducation nationale. Oui. Toujours on est donc suivi par une personne qui est déjà là, parfois on assiste aussi à...
L'ancienne infirmière est partie à la retraite en fait au moment où j'arrivais. Donc elle est venue quand même un jour, le jour de la rentrée, pour un petit peu me briefer un petit peu pour certaines choses. Et c'était super sympa. Et c'est vrai qu'après, on est quand même tutoré. On a un tutorat avec une infirmière confirmée qui nous suit durant toute l'année. Donc elle vient 4-5 fois dans l'année nous voir au sein de l'établissement. Nous, on vient 2 ou 3 fois dans son établissement pour voir justement la différence. Et elle nous conseille, elle nous donne un petit peu si on a des questions sur les textes de loi, tout ce qui est en vigueur, les circulaires. Elle nous explique tout ça. Et on a aussi une formation continue, donc de début en fait de prise de poste. Donc là, on en avait eu quand même 9 journées ou 11, quelque chose comme ça. Donc on n'est quand même pas lâché toute seule, mais c'est vrai que quand on est dans l'établissement, on fait.
C'était lycée général ou...
Alors, c'était ici. Lycée général, technologique, avec une section professionnelle et une troisième de découverte professionnelle.
C'était le même nombre d'élèves au départ
Non, il y avait un petit peu moins. Il y avait une 150-200 en moins.
Donc, ça va. Donc, commencer avec...
Oui, mais c'était quand même très dense parce qu'en fait, on a plein de choses, plein de missions en fait, au sein de l'établissement et c'était assez compliqué à mettre en place aussi. Il a fallu réfléchir.
Donc, c'est quoi les missions d'une infirmière ?
Alors, les missions, globalement, en fait, c'est de contribuer à la réussite des élèves, tant au niveau scolaire qu'au niveau aussi, on va dire, du développement, de l'épanouissement personnel, parce que ce sont des futurs citoyens qui devront aussi faire des choix éclairés, responsables quant à leur santé. Donc, on est là pour ça. En fait, on fait de la prévention beaucoup, plus que, on va dire, du soin curatif. On fait beaucoup de soins infirmiers préventifs. On est là pour détecter justement s'il n'y a pas des risques, des problèmes, des difficultés qui pourraient entraver leur scolarité, ça c'est sûr. Parce que notre mission première, c'est qu'ils réussissent, mais globalement. On accompagne, on accueille. C'est vrai que c'est par rapport à... aussi par rapport à la politique nationale. Le ministère, justement, nous donne des conduites à tenir, il y a des circulaires. Et c'est vrai que c'est décliné au niveau de la politique, on va dire, académique. Et donc, du coup, il faut qu'on mette en place toutes les actions qui sont importantes au niveau de notre territoire. Voilà. Donc il y a aussi une politique pour éviter justement les inégalités sociales et la ruralité, comme nous sommes dans un établissement rural, donc qui est très important pour qu'on puisse faire un suivi des élèves parce qu'ils n'ont pas forcément accès aux soins, ils n'ont peut-être pas forcément toutes les structures autour d'eux, pour ceux qui habitent dans des villages assez éloignés. Donc on est là aussi pour faire des relais, pour orienter, pour aider ces élèves.
Voilà, donc c'est puisqu'on est là, des parents qui écoutent, des enfants... Si tu peux développer donc ces émissions avec des exemples, voilà, donc c'est de quoi il s'agit exactement et des exemples, voilà, qui permettent que les gens comprennent vraiment la place et aussi là, une infirmière vraiment, on sait comment ça se passe dans un hôpital et pas, il y a une grande différence.
Oui, tout
voilà,
à fait.
Donc dans un établissement et la personne, on ne le voit pas. Il est donc enfermé dans un bureau.
On bouge beaucoup.
Mais c'est ce qu'on... On ne voit pas la personne.
On a une idée, une idée préconçue.
Voilà. Et alors qu'il y a beaucoup d'urgences, il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup... Donc c'est pour ça.
Oui,
voilà, au moins, voilà, transmettre l'information pour ça donner encore plus un aperçu par rapport à l'émission. Le travail qui est effectué et surtout des exemples qui permettent vraiment de bien comprendre.
Alors c'est vrai qu'on a l'idée de l'infirmière éducation nationale qui est dans son son bureau, qui donne des cachets dès qu'un élève a
ça.
Mal.
Voilà, c'est ça.
Sauf que ça, c'est vraiment plus l'ancienne, c'est de l'ancienne actualité. Nous, on est plus au niveau des actions d'éducation à la santé, à la citoyenneté auprès des élèves. Donc nous, on les accueille pour ceux qui viennent. Alors, on leur dit de venir hors des cours le plus possible, sauf urgence bien sûr, parce que l'assiduité en cours leur permet aussi de pouvoir avancer dans leur scolarité et de pouvoir préparer leur diplôme. On est plus dans le préventif, bien sûr, il y a du curatif. Alors quand un élève a un problème particulier de santé, chronique, par exemple ceux qui ont des PAI, des projets d'accueil individualisés, ces élèves ont déjà un protocole d'urgence. En cas de problème, style bah, le diabète, l'asthme, les épilepsies, ils nous donnent la prescription médicale et nous, on fait justement le relais avec la communauté éducative. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le protocole d'urgence et de soins en l'absence de l'infirmière, ça peut nous arriver d'être absente pour formation ou autre. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le relais. Donc, justement, on informe les surveillants, hein, les AED qui sont à la vie scolaire, les CPE, la direction, bien sûr. On travaille en fait avec tout agent, tout personnel de l'établissement, hein, déjà. Donc c'est vrai qu'on met en place des choses, même au niveau des cuisines, pour les allergiques alimentaires. Donc là, on est garante aussi de pouvoir mettre en place le PAI, en concertation bien sûr avec le médecin éducation nationale. C'est lui qui fait le PAI, hein, pas nous. Mais nous, voilà, on relaye l'information aux professeurs principaux, hein, pour qu'ils puissent le dire aux autres enseignants de l'élève. Et c'est vrai que nous, on va participer en fait à l'organisation de tout ça. Il y a aussi pour les élèves qui ont des PPS. Donc les PPS sont des projets personnalisés de scolarisation. Donc eux aussi, ils ont alors plutôt un handicap, quelque chose qui leur demande d'avoir ou une aide humaine. Donc comme vous avez vu tout à l'heure avec
Sandra,
ouais, Sandra pour en tant que AVS, elle est là pour aider justement, pallier certaines choses au niveau de certains élèves qui ont un handicap. Hein, donc ça s'appelle un PPS, projet personnalisé de scolarisation. Donc c'est vrai que là, ce sont des élèves qui ont besoin ou du matériel ou une aide humaine et pour pouvoir avoir une équité. En fait, on essaye, comme on dit, la réussite de tous les élèves et qu'ils puissent avoir, comme je disais par rapport à la politique nationale, qui est moins d'inégalités sociales et puis même, on va dire, au niveau médical. Voilà. Donc, ensuite, il y a aussi à moindre problème, donc ce qu'on appelle les PAP, les plans d'accompagnement personnalisés, qui sont plutôt voilà, des élèves qui vont être plus autonomes, mais qui ont par exemple une dyslexie, une dyspraxie, une dysorthographie, dyscalculie, et ils auraient besoin plus, on va dire, de petits aménagements scolaires que les professeurs peuvent mettre en place. Et donc nous, justement, on explique pourquoi, s'ils ont besoin. Voilà, nous, on répond aussi aux questions des enseignants, parce qu'ils se posent des questions. Il y a quelques années, ce n'était pas encore trop développé, ce genre de PAP. Maintenant, c'est beaucoup plus démocratisé. Et c'est vrai que les enseignants, maintenant, prennent part à ça. Et voilà, ça rentre tout doucement avec l'école inclusive, qui est justement depuis la loi sur le handicap en 2005. Donc ça évolue beaucoup. Donc on a ce versant-là, on détermine aussi les besoins des élèves, c'est-à-dire que quand un élève vient nous voir en consultation infirmière, on va déjà poser un diagnostic infirmier, on a une démarche derrière, on voit ce qu'on peut recueillir, ce que nous on peut demander, bon, tout ce qu'on peut faire, on peut prendre aussi la tension, hein, comme une infirmière à l'hôpital, tension, pulsation, on vérifie aussi s'il faut la saturation, la glycémie, et nous on pose un diagnostic infirmier, donc pas médical. C'est vrai qu'on veut nous demander déjà, le diagnostic médical, mais non, on n'est pas là, c'est pas dans nos compétences. Donc, en fait, on pose nos diagnostics infirmiers qui nous permettent en fait d'évaluer un petit peu, globalement, pour l'élève déjà, un suivi particulier. Donc, on va le suivre de temps en temps, on va le reconvoquer pour le voir. On amène la plupart du temps aussi les élèves à pouvoir communiquer avec leur famille, ou ils le font eux-mêmes, ou alors nous, on est médiateurs, hein, on fait le lien, justement, parce que la bienveillance à l'école, bah, ça passe aussi avec les familles. On ne peut pas travailler sans eux, donc on leur explique bien. On essaye aussi de les orienter s'il y a besoin chez un spécialiste. Alors nous, on a des partenaires multiples. Hein, vraiment, on travaille avec tous les agents. Alors tous les agents, ça peut être la vie scolaire, la direction, les CPE, les assistantes sociales, le médecin éducation nationale, le psychologue éducation nationale aussi. Mais vraiment avec tout le monde, avec les AESH, justement, qui sont très importants aussi. Avec même les agents de maintenance, parce que quand il y a un problème de sécurité, de conditions de travail, parce que nous, on a des ateliers, ben on est là aussi pour être conseillère technique auprès du chef d'établissement, qui justement va pouvoir voir avec eux ce qu'on peut mettre en place pour améliorer l'établissement.
Et ces émissions, est-ce que comme dans l'éducation nationale, il y avait, sur les 13 ans, il y a beaucoup de réformes, il y a beaucoup de changements.
Il y a des changements.
C'était toujours les mêmes émissions. Non. L'émission qui était donc installée depuis 10 ans ou 13 ans, c'est les mêmes jusqu'à maintenant, ou bien il y a un changement.
Il y a eu un changement, en fait. C'est vrai qu'avant, on avait nos missions qui étaient de 2000. Et là, elles ont changé en 2015, novembre 2015. Donc, il y a eu une évolution. Voilà. Donc, il y a tout ce que je vous ai dit, mais il y a aussi au niveau de... On a aussi des dépistages infirmiers qui étaient déjà là avant. Donc, on dépiste, on essaye de voir si, par exemple, un professeur se rend compte qu'un élève n'arrive pas à lire, ou n'arrive pas à voir, ou n'entend pas bien, ou a un problème de graphie. On nous l'envoie. Donc nous, on va faire une consultation infirmière. On va essayer de voir, poser notre diagnostic pour justement communiquer avec la famille pour dire bah, est-ce qu'il faut aller voir l'ophtalmo ou un ergothérapeute, un orthophoniste. Bon, ça c'est plus, on va dire, moi je suis avec des lycéens, c'est déjà détecté. Généralement, ça c'est plus au niveau des écoles primaires, mes collègues, parce qu'il y a plusieurs aussi possibilités de travail. On n'est pas que dans des lycées. Et c'est vrai qu'on est là pour faire le lien avec les familles entre ce qu'on peut détecter nous, en suivi, en dépistage infirmier, et ce qu'il y a besoin de faire pour l'élève. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a ça, il y a la protection de l'enfance. Hein, on est là en cas de problème de maltraitance ou de violence. Voilà, on a aussi ce rôle-là. On suit aussi, bon, comme je vous ai dit, tous les élèves qui ont des pathologies particulières. En zone rurale, ça c'est important. Hein. Et en fait, quand même un membre de l'équipe éducative, par exemple CPE ou quelqu'un d'autre, nous interpelle, on est là aussi pour ça. On fait des suivis, nous, à la demande de l'élève, à la demande des parents. Il y a des parents qui nous demandent et à la demande des personnels de l'établissement.
Alors, combien le nombre d'heures pour une infirmière de l'éducation nationale ?
Alors, en fait, on fait 44 heures par semaine parce qu'on travaille sur 36 semaines. Voilà. Donc 44 heures, dont 10% qui sont hors présence d'élèves. En fait, on a beaucoup d'administratifs, comme dans tout métier,
oui, voilà.
Et il y a pas mal de traçabilité. Donc on est obligé de mettre tout cela dans notre logiciel de passage d'élèves. Et il faut qu'on puisse au moins se rappeler et voir le suivi de notre élève. Ainsi que le dépistage, ainsi que même pour poser un diagnostic d'établissement. Alors, diagnostic d'établissement, ça veut dire voir les besoins globalement des élèves, au niveau des prises de risque, donc que ce soit que les addictions, la sexualité ou autres problèmes psychologiques, harcèlement. Hein, on fait partie de tout ça. On contribue aussi, nous, au diagnostic d'établissement pour conseiller le chef d'établissement et pour faire aussi participer, entre autres, avec une équipe globale de l'établissement, aux projets qui sont faits d'éducation, prévention à la santé et citoyenneté au sein de l'établissement.
Alors, voilà. Comment ça se passe la journée d'une infirmière d'éducation nationale ? Comment ça s'organise, une journée ?
Alors, il y a... Donc, moi, j'essaie
journée
de...
Type, voilà.
Journée type.
C'est-à-dire, on essaye. Voilà.
Ouais, c'est un peu compliqué parce qu'on a beaucoup de choses et c'est beaucoup d'aléas.
Voilà.
Donc, les élèves qui vont venir, on ne peut pas les prévoir.
Donc, tu commences, par exemple, à quelle heure à partir de... Où il y a une heure fixe
Ah, moi, j'ai un emploi du temps fixe,
voilà,
oui.
C'est ça, donc, alors...
Je commence à 8h40. Donc, les élèves, il peut y avoir des passages. Nous, on peut avoir aussi convoqué des élèves donc, en consultation infirmière avec pause de rendez-vous pour pouvoir les suivre, pour pouvoir... ou alors détecter ce qui se passe par rapport à ce qu'on nous a demandé. Donc, les professeurs nous remplissent une fiche de demande de consultation infirmière avec quelques éléments pour déjà savoir de quoi on parle et quel est le but de cette consultation. Qu'est-ce qu'on attend de nous ? Et en fait, donc après, on voit ces élèves. Après, il peut y avoir des urgences. Donc, on peut être appelé et donc devoir partir, laisser ce qu'on est en train de faire par rapport à l'urgence qui est en question. C'est vrai qu'on n'a pas une journée type. En début d'année, moi, je sais que je contribue aussi pour le travail des élèves qui sont en atelier. Le médecin scolaire doit les voir en visite pour les travaux réglementés et donner son accord s'il n'y a pas une incompatibilité, on va dire, de santé avec leur section, leur filière professionnelle, entre autres, parce que sinon, il faut les réorienter. Donc, on a aussi ce rôle-là avec le médecin. Donc, on travaille en concertation et c'est vrai que moi, je fais des dépistages. Parce que déjà, c'est une population rurale qui a besoin de pouvoir avoir un suivi. Parfois, ils ne vont pas forcément rapidement chez le dentiste. C'est quelque chose de simple, mais bon, important, l'ophtalmo. Donc, c'est vrai que nous, du coup, comme on les voit, on détecte certains problèmes. On fait le relais avec la famille. Et justement, ça permet de déclencher des rendez-vous et qu'ils puissent mieux s'intégrer et puis poursuivre leur scolarité. Donc voilà, on a aussi les dépistages, donc ça c'est en début d'année. J'essaye de fermer le bureau, sauf urgence bien sûr, pour pouvoir faire mes dépistages, parce que ça prend du temps. On ne va pas faire rapidement. Il y a un entretien, il y a tout un tas de mesures à faire, et puis on fait un compte-rendu aussi dans le carnet de santé. Donc on fait partie aussi de ce qu'ils appellent plus au niveau du collège, le parcours de santé individuel des élèves. Donc il y a tout un tas de choses à faire. Durant le cursus scolaire, que ce soit de l'école primaire jusqu'à l'université, il y a des étapes, il y a des choses qu'on met en place, même les projets d'éducation à la santé et citoyenneté, qui permettent aux élèves d'acquérir des compétences psychosociales, pour avoir l'esprit critique, autocritique, pour se prendre en charge, santé, citoyenneté, voilà, pour le bien-être ensemble, pour l'ambiance aussi, le climat scolaire, comme on appelle ça. Et ça, c'est important aussi. Donc, il n'y a pas de journée type. Ça dépend aussi des élèves qu'on doit voir, parce qu'on a aussi des réunions entre nous, donc le GPDS, donc tout ce qui est, en fait, pour vérifier qui est... la prévention en fait du décrochage scolaire. Donc on se réunit avec les CPE, la direction, le psychologue scolaire. Si le médecin peut venir, ben, il vient. Nous, les infirmières, assistants sociaux. Et ce qui permet de se concerter sous le secret professionnel, bien sûr, parce qu'on est tous soumis en tant que fonctionnaires au secret professionnel, mais avec, justement, ben, moi je demande l'accord des élèves pour pouvoir parler de certaines situations, pour qu'on puisse travailler en concertation et les aider au mieux pour avancer. Donc on a un rôle assez large et on a des réunions parfois aussi. Donc ça peut être donc ce que j'ai dit, le GPDS, une équipe éducative pour les élèves qui ont justement des PPS, hein, qui ont des handicaps. Les commissions éducatives quand il y a un problème de comportement, pour essayer de comprendre s'il n'y a pas un problème aussi de santé. Donc voilà, tout le monde se réunit autour de la table avec les parents. Le Fonds social lycéen, je fais aussi partie de cette commission pour justement allouer aussi pour les inégalités sociales, allouer des... Alors on se concerte pour savoir si on peut aussi aider au niveau de financier pour tout ce qui est demi-pension, ce qui est aussi les affaires de sport scolaire qui permettent justement de faire une équité sociale. Voilà.
Il y a donc au début de l'année, donc programmation avec les différents partenaires, comment ça se déroule, voilà, ou bien on attend d'abord à faire une étude, un inventaire, voilà, de travail effectué, ou bien on commence directement.
Alors, à étudier le... En début d'année, c'est dense, parce qu'il y a plein d'élèves qui viennent nous voir avec leurs inaptitudes de sport, de PS, en expliquant que, voilà, ils ont tel problème de santé, ce qui nous permet, nous, de répertorier ceci et de pouvoir, justement, le dire à la communauté éducative, entre autres les enseignants de PS, bien sûr. On a aussi tous les PAI qu'il faut mettre en place, les PPS. Donc, moi, je répertorie, j'essaie de voir s'il y a des personnes, des professeurs principaux qui ont d'autres informations que je n'ai pas. Moi, j'ai un gros classement à faire avec toutes les fiches d'urgence que les parents ont complétées, avec tous les problèmes de santé qui pourraient être répertoriés. Donc, c'est vrai que c'est assez dense en début d'année. Donc, on se communique beaucoup d'infos. Et après, justement, on essaie de faire les réunions pour qu'on puisse voir... Bah, alors, on travaille aussi avec l'enseignant référent, qui est en fait une enseignante qui s'occupe de tout ce qui est handicap. Voilà. Oui, oui, on a multiples partenaires. Et c'est vrai qu'on ne peut pas mettre toutes les réunions au début d'année. Mais on répertorie tout ça. On communique beaucoup avec les CPE, parce qu'ils ont pas mal d'informations aussi entre le collège et le lycée, donc par rapport aux élèves arrivants. Donc ça nous permet de globalement d'essayer de voir... Quel élève aura besoin d'aide, d'aménagement scolaire? Moi, j'interpelle rapidement les professeurs principaux pour pouvoir leur dire, écoute, il va y avoir, je n'ai pas encore le document, parce que je n'ai pas tous les documents au départ. J'attends que les familles aussi, je les contacte ou elles me contactent. Et ce qui permet justement après de pouvoir avancer avec l'élève. Voilà.
Et après, comment ça se passe à l'organisation quand c'est terminé? Voilà, c'est l'étude, voilà, et les dossiers, etc. Et après, donc, c'est un déclenchement avec l'accord de la direction, l'accord de... Voilà, donc comment ça se...
Alors, le PAI, le PPS, il n'y a pas de secret médical. C'est-à-dire que la famille veut bien communiquer les informations de son enfant dans son intérêt pour pouvoir le prendre en charge au mieux, comme école inclusive. Et c'est vrai que là, on a un document. Donc le PPS, c'est pas nous qui le faisons, c'est l'enseignante référente en concertation avec le médecin ou alors avec les partenaires aussi extérieurs, les gens qui suivent l'enfant à l'extérieur, l'élève. Et on a aussi par contre les PAI, les médecins spécialistes qui nous font un protocole qu'on intègre, on insère avec le médecin scolaire dans le PAI. Et justement, il y a une conduite à tenir. Si tel problème, faire ceci, donner tel médicament, et voilà. Donc, on les distribue dès que tout le monde a signé, parce qu'il y a tout le monde qui signe, qui s'engage. Donc, il y a pas mal de personnes qui signent. Donc, la direction, comme ça, ils sont bien informés, parce que si je suis absente, au moins, ils savent comme quoi il y a un PAI pour tel élève. Les CPE, forcément. On a le professeur principal, plus ou moins le gestionnaire et la restauration pour les allergiques alimentaires, pour les diabétiques. Et puis, on a aussi donc le professeur d'EPS s'il y a problème, risque au niveau de l'EPS, l'infirmière, le médecin, la famille, l'élève qui s'engage aussi. Donc, c'est un contrat, en fait. Et voilà, il y a les différentes choses à mettre en place qui sont notées dedans. Voilà.
Et après, donc, c'est pareil à la fin de l'année.
Alors, à la fin de l'année, les élèves que je connais déjà, j'anticipe, je vois avec le médecin scolaire pour qu'on puisse déjà préparer le PAI ou le PS, non, parce que c'est l'enseignante référente qui le fait. Mais le PAI, on fait le document pour l'année d'après en demandant s'ils ont, par exemple, justement, entre juillet et août, la possibilité de voir le médecin spécialiste pour qu'il puisse refaire le protocole selon l'évolution de la maladie, du problème. Et donc, on essaie de le mettre plus vite en place. Mais les nouveaux arrivants de seconde, non, c'est un peu plus long, forcément. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, c'est dense.
Et sur une année, c'est le moment le plus difficile. Donc, est-ce qu'il y a des moments où il y a... plus de travail à faire, ou bien plus de consultations, ou bien plus de paperasse à faire, etc. Ou c'est
alors,
la même chose toute l'année.
Globalement, il y a quand même des moments où c'est plus dense. Le début d'année, la fin d'année, parce que la fin d'année, on boucle aussi tous les dossiers, on fait des statistiques, hein, on fait partie aussi au niveau national de pouvoir faire contribuer aux statistiques et aux données épidémiologiques. Donc on fait remonter aussi nos statistiques par rapport au nombre de passages, combien il y a eu d'accidents scolaires ou accidents de travail, le nombre de dépistages que nous avons fait, les consultations, les suivis, enfin... C'est très très dense. Aussi le nombre d'élèves qui auraient eu un problème au niveau de l'éducation à la sexualité, hein, le nombre de grossesses, le nombre de demandes de pilules du lendemain. On fait aussi ça. Oui. Donc on est en fait, d'une certaine manière, on peut prescrire certains médicaments que d'autres infirmières ne feraient pas. Donc il y a des choses qui sont spécifiques à l'éducation nationale. On est un peu une spécialité à part entière. Hein. Et c'est vrai que non, il y a des moments denses. Alors, on va dire le début, la fin, forcément. Il y a beaucoup d'administratifs. Il y a beaucoup de choses à mettre en place ou à boucler. Au milieu, il y a quand même d'autres choses. Parce que si on participe à des actions d'éducation donc en classe, donc il faut faire des projets avec une équipe, il faut se réunir. Il y a aussi tout au long de l'année, il y a quand même aussi toutes les évolutions de certains élèves. Donc, il y a des problèmes qui peuvent survenir, des priorités qui se dégagent. Donc, il y a aussi de quoi faire. Mais globalement, oui, il y a deux, trois périodes denses dans l'année. Mais il y a quand même de quoi faire, on ne s'ennuie pas.
Et là, par rapport donc, ici, dans la région, donc,
oui.
Est-ce qu'il y a des rencontres avec les infirmières d'autres, c'est-à-dire du collège, des autres lycées? Est-ce qu'il y a des formations aussi, comme ça se passe pour les enseignants? Donc, obligatoires ou bien seulement choisies?
Alors, au niveau des rencontres et des réunions avec les infirmières, généralement, on a une réunion en début d'année, voire aussi peut-être en fin d'année, pour pouvoir justement échanger sur les nouveautés, donc les circulaires qui viennent de sortir, les évolutions de notre métier et puis de l'éducation nationale. Donc on se rencontre collège et lycée, parce que voilà, on puisse aussi échanger, parce qu'être que en lycée, voilà. On n'a pas forcément, on connaît les textes, mais on les a pas en pratique, c'est que de la théorie. C'est vrai que c'est bien d'échanger aussi avec nos collègues pour... Puis même, il y a parfois, tu fais comme ça pour certains projets, c'est intéressant. Et donc, on échange. On a aussi, alors moi, je sais qu'on est quelques infirmières à avoir fait une formation pour devenir formatrice d'ateliers de pratiques professionnelles, d'analyse de pratiques professionnelles. Donc, en fait, secret professionnel, bien sûr. On échange simplement sur nos façons de faire, nos pratiques. Et quand on peut avoir, par exemple, un problème par rapport à une situation... anonymisé, bien sûr, il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout qui nous dit qui est en question dans la situation. En fait, on réfléchit pour prendre du recul par rapport à nos pratiques et savoir comment on peut évoluer dans cette situation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé depuis quelques années. D'abord, j'étais pas formatrice, j'étais plutôt participante. Donc, on avait une collègue qui nous le faisait. C'est ce, entre pairs. Est infirmière, formatrice pour d'autres infirmières. Et c'est vrai que c'était très intéressant. Donc, il y a 2 ans, en fait, on a eu la possibilité de pouvoir s'inscrire. Donc, c'est aussi des formations au PAF. Et donc là, on s'était porté volontaire, moi et ma collègue. Et donc, on fait ces ateliers qui sont vraiment très intéressants, qui nous permettent justement de nous remettre en question, chose qu'on fait, mais d'une façon différente. Et après, le fait de partager entre nous nos différentes façons de gérer les situations nous permet justement d'avancer, de trouver notre propre façon de faire pour évoluer et puis pour dégager aussi des concordances. Et ce qui nous permet vraiment de... Oui, c'est super intéressant. Ça devrait même... Alors, il y a des enseignants qui font cette formation-là à l'université et qui justement en retirent un bénéfice énorme. En fait, pour toutes les professions, il faudrait vraiment qu'il y ait ces ateliers-là. Je trouve que c'est important.
Est-ce qu'il y a un site qui est réservé pour les infirmières, par exemple, de la région,
oui.
Comme nous, par exemple, professeur de Contalis, on a cette possibilité, pas seulement la région, mais en France, parce qu'on est seul donc, dans chaque établissement, et ça nous permet parfois d'échanger. Parfois, si on a une question qu'on ne trouve pas, une réponse, au moins, on envoie sur ce site-là, et à partir de là, on a une réponse d'autres collègues. Est-ce que ça se passe pareil pour les infirmières
Alors, par contre, moi, je sais qu'on a un espace partagé, infirmière, donc académique. On a tous les textes qui sont dedans. Si on doit rechercher un texte ou un document pour donner à une famille, pour une demande, par exemple, d'aide pédagogique à domicile, quand un élève est longtemps absent, quand on doit chercher n'importe quel document qui est académique, on le trouve là, on a les textes. On a aussi des groupes de travail qui sont faits au niveau académique et donc ils nous échangent, ils nous donnent des informations. On a des tutorats, des tutoriels aussi sur Internet, avec magistère, comme les enseignants. Pour les formations, on a le PAF aussi. Donc, c'est tout un tas de programmes avec des formations qu'on peut demander, plus ou moins accepter selon le nombre de places. Mais au niveau de l'échange, c'est vrai qu'on échange, nous, lors de nos réunions. Là aussi, notre médecin du bassin sud-meusien va nous réunir entre infirmières pour justement échanger. Si on a des questions, on se les pose. Après, on peut se téléphoner aussi. Donc, on se connaît toutes au niveau départemental. Mais c'est vrai que, après, l'espace partagé, c'est pas comme un blog ou un chat où on peut se poser des questions. Mais on peut le faire aisément par d'autres moyens aussi. Non, là, on n'est jamais trop seul. Si on a une question, on peut demander à une collègue ou à notre... parce qu'on a un infirmier aussi, conseiller technique, qui est au niveau du département, de la DSDEN. Donc, en Meuse, on peut lui téléphoner. « Ouais, j'ai un doute, je voudrais savoir qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. » Donc, on est seul dans notre établissement, c'est vrai. Mais on a des moyens quand même de pouvoir communiquer avec d'autres personnes et avoir nos réponses.
Quand on parle de partenariat, comment ça se déroule? Ou bien comment ça se passe?
Alors, les partenaires, donc comme j'ai dit, on travaille avec tous les personnels d'établissement. Donc, ça soit les CPE, les professeurs, les surveillants, la direction. Donc, ça peut être le proviseur, son adjoint, l'agent comptable, parce que oui, on a aussi besoin de l'agent comptable, du gestionnaire. Tout ce qui est au niveau sécurité, hygiène et sécurité au travail, on voit aussi avec lui quand il y a un accident. Alors on dit, il y a eu un accident de tel endroit, donc on va essayer d'analyser et de voir s'il n'y a pas un problème particulier de matériel, parfois pas, parce que beaucoup d'accidents, les élèves, c'est parce qu'ils font pas attention, c'est de l'inattention, mais on analyse quand même, avec l'administration, tous les secrétariats, qui justement gèrent aussi les élèves, les assistants sociaux, médecins, éducation sociale, psychologues scolaires et les agents, donc maintenance, ça peut être aussi les agents d'entretien, cuisine, parce qu'ils voient aussi les élèves, ils peuvent nous donner des indications, des informations qui sont précieuses. On a aussi tous les partenaires donc extérieurs. On a par exemple, on travaille en concertation avec le CMP adulte et CMP enfant. Alors c'est le centre médico-psychologique, donc ils nous permettent aussi, alors selon une convention, on a signé une convention, le lycée et les 2 CMP, pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir aider les enfants qui ont un mal-être, un problème au niveau psychique, justement. Et ça permet de faire des liens, toujours sous le secret professionnel, bien sûr. Mais on peut au moins voir avec les familles pour pouvoir les envoyer. Nous, on les rassure en disant on connaît ces partenaires, donc on vous y envoie sans dire qu'on ne les connaît pas, on ne sait pas comment ça se passe, on sait. Donc ça nous permet justement de pouvoir travailler en concertation et d'aider les familles justement à faire le pas pour pouvoir aller vers ces structures. Il y a aussi le CMPP, donc ça c'est le centre médico-psychopédagogique, qui est un peu plus axé sur la pédagogie, qui généralement est déjà mis en place depuis l'école primaire ou collège. Donc là, les parents les connaissent bien, et nous on fait aussi le lien s'il y a besoin au niveau scolaire, si on voit qu'il y a une évolution, un problème. On a aussi, par exemple, on a une chance aussi en Meuse, on a pas mal de structures et d'associations qui sont développées ces dernières années, parce qu'au départ, elles n'existaient pas. On a la maison des adolescents, c'est aussi donc avec éducateurs, avec infirmières, psychologues, mais ça permet aussi, si par exemple certains ne veulent pas aller au CMP, de pouvoir déjà commencer à en parler à quelqu'un qui est neutre, qui est sous secret professionnel, qui ne va pas juger comme nous, mais qui va être en fait un peu en dehors de la structure, parce que nous, par rapport au passage, parfois on ne peut pas faire un suivi soin long. On peut voir de temps en temps l'élève et après on oriente par rapport aux problèmes qui se posent. Et donc la maison des adolescents peut aider aussi certains élèves à faire le premier pas pour pouvoir parler à quelqu'un. Il y a aussi les associations diverses, donc c'est surtout aussi au niveau des addictions. Donc il y a l'EXAPA, le Centre de soins d'accompagnement de prévention en addictologie. On a Centraide, on a l'ANPA, qui est l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. Il y a aussi l'AMSEA, donc c'est une association meusienne pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes. En fait, elle répertorie pas mal de choses. Il y a aussi les foyers, les MECS, les maisons de l'enfance qui sont aussi rattachées à cette association. Et il y a aussi tout ce qui est au niveau justice, au niveau éducateur. Et en fait, tout ça est mis sous une association. Et nous, on a un peu un partenariat justement par rapport à quelqu'un qui avait eu un problème il y a longtemps en addiction, qui a eu justement des problèmes médicaux suite à ça, mais qui témoigne. Donc, qui peut aussi sensibiliser les élèves. Moi, je pensais faire pas grand-chose dans l'addiction, de consommer des choses, des drogues qui ne pouvaient pas m'atteindre. Et en fait, voilà le résultat. J'ai eu ce problème-là. Donc c'est très intéressant aussi quand on fait intervenir ce genre de personnes au sein de l'établissement. Les élèves sont attentifs et souvent très, sensibles par rapport à ça. Parce que c'est une personne qui témoigne et c'est pas que de la théorie. Et donc là, ils s'identifient plus facilement et se posent des questions différemment pour pouvoir évoluer s'ils ont une consommation, justement. On a aussi le planning familial qui est très important avec la sage-femme de PMI, protection mère-infantile, qui justement peut aussi venir au sein de l'établissement faire des interventions dans les classes. Bon, généralement avec nous ou avec un professeur ou l'assistant social, parce qu'on est en partenariat et il faudrait vraiment qu'on développe beaucoup plus tout ceci. Et c'est vrai qu'elle a un rôle aussi important pour éviter les grossesses à risque et pour éviter surtout une grossesse non désirée. Voilà. Les médecins traitants. Parce que c'est vrai que lorsqu'on peut parler avec une famille, on demande si on peut aussi échanger avec le médecin traitant pour justement, ou alors quand l'élève est majeur, on lui demande, ce qui permet justement de relayer aussi, parce que c'est la première personne qui connaît la famille et qui peut faire, l'orientation vers le bon spécialiste. Voilà. Donc ça, on a aussi ça comme partenaire. Et on a quelques dispositifs qui existent, donc il y a Écoutez-moi pour tout ce qui est repérage souffrance psychique, donc on fait partie du maillon de ce dispositif avec le médecin ou avec des médecins traitants qui sont justement référents et qui permet aux élèves d'avoir des consultations chez un psychologue, donc une douzaine de consultations prises en charge par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, qui permet justement pour certaines familles d'alléger au niveau financier. Donc voilà, il y a plusieurs dispositifs qui existent comme ça. Bon, il y a certains critères de sélection, parce que l'ARS, s'il y a déjà un suivi avant, ça ne peut pas prendre en charge justement ce dispositif. Il y a aussi FilProAdo qui est un dispositif. Alors c'est pour tous les professionnels qui peuvent travailler autour d'un élève, que ce soit médecin traitant, éducateur, la maison de l'enfance, même nous. Si à un moment donné on voit que l'évolution d'une situation n'évolue pas favorablement, on se met tous autour d'une table, donc il peut y avoir le médecin traitant, il peut y avoir quelqu'un du CESAD qui est justement pour les élèves qui ont des problèmes de handicap ou de pathologie particulière, ils se mettent tous autour de la table avec l'éducation nationale pour justement réfléchir ensemble comment on peut aider cet élève. Voilà. Et bien sûr, bah, on a un partenaire privilégié quand on a des urgences, donc le SAMU. On appelle le SAMU pour conseil ou pour faire déplacer les pompiers, l'ambulance, s'il y a besoin. Voilà.
Alors, lequel partenaire qui est le plus...
Le plus... les personnels de l'établissement. Ça, c'est les premiers. La famille qui est très importante. Hein, c'est vrai que quand en période d'adolescence, parce que moi je parlais pour mes adolescentes de lycée, il y a beaucoup de transformations physiologiques, psychiques. Il y a beaucoup de situations qu'ils vivent, qu'ils n'ont pas envie de partager avec leur famille. Donc c'est tout un travail que nous faisons au fil des entretiens afin de leur permettre de pouvoir leur parler, de leur dire justement le problème qu'ils ont. On peut être médiateur, comme j'avais dit en début, pour pouvoir être en duel, c'est-à-dire qu'on a le parent qui est là ou les parents avec l'élève, on communique justement sur le problème qui se pose, ou sinon nous on appelle quand ils nous donnent leur accord, mais c'est vrai que c'est le partenaire privilégié. On est en coéducation, on ne peut pas faire sans les parents, c'est pas possible.
Plus important, donc, et aussi ça aide aussi pour comprendre et savoir comment on va suivre. Donc l'enfant.
Oui. C'est les premières personnes qui vont être personnes ressources, soutenantes. Donc c'est justement ça que l'on veut au maximum. C'est vrai que je téléphone assez souvent aux parents, même pour une maladie qui est pas forcément importante, un petit problème. Mais c'est vrai qu'on a vraiment énormément besoin de travailler avec eux. Donc on essaie de convaincre. C'est un travail de longue haleine. On peut pas réussir parce que c'est vrai que quand il y a des enseignants ou quand il y a des personnels de l'établissement qui nous disent comment ça évolue, on évolue parfois plus lentement que certains voudraient. Même les élèves, quand ils viennent nous voir en consultation, c'est je veux tout de suite quelque chose, il faut que ça réussisse et que ça aille mieux. Non, c'est un travail sur le temps humain, et le temps humain prend du temps, il faut convaincre, il faut travailler ensemble. L'écoute que l'on fait, la relation d'aide que l'on fait, c'est quelque chose qui ne va pas se faire en un ou deux entretiens. Et il faut vraiment qu'ils comprennent qu'ils vont réussir en fait à trouver leurs propres ressources, leurs propres possibilités et puis compétences. Ils ont des compétences tous, même si on a l'impression que certains font que le cirque en classe, non ? Et on essaie de les amener justement à percevoir ça, à reprendre conscience et confiance en eux, parce que en fait leur estime souvent est plutôt basse. Et en fait ils ont tellement de choses en eux et il faut faire émerger ça. Et dès lors qu'on arrive à leur faire trouver leurs propres solutions, pour la suite, ils vont pouvoir se prendre en charge au niveau santé, citoyenneté, eux-mêmes, et avancer sereinement et s'épanouir, quoi.
Et sur 13 ans, est-ce qu'il y a des moments qui étaient difficiles ou c'était des bons souvenirs qui restaient, donc par rapport à une rencontre, ou faire une chose, un projet qui était vraiment bénéfique, tout ça, est-ce que...
Alors justement, il y a eu des moments difficiles par rapport à certains élèves qu'on n'arrivait vraiment pas à aider, qui ont parfois décroché ou parfois qui se sont accrochés et qui ont réussi. Et ça fait du bien de les revoir même plus tard, quand on les rencontre dans la rue ils nous abordent, ils nous disent ce qu'ils sont devenus, ça c'est génial. Bon, il y a des moments difficiles aussi parce qu'il y a une densité de travail. Les projets, oui, j'avais fait pas mal de projets. À une époque, mais à un moment donné on peut s'essouffler quand on n'est pas assez nombreux et c'est vrai qu'on ne peut pas faire seul, donc il y a des choses que j'ai mises de côté pour l'instant pour permettre justement à ce qu'il y ait plus de partenaires qui puissent venir avec nous, donc personnel de l'établissement, parce qu'on parle de projet dans l'établissement. Quand il y aura plus justement de personnes qui s'impliqueront, qui pourront aussi se dégager du temps, parce que c'est des choses que l'on fait sur le bénévolat à côté, mais qui sont importantes parce que justement le climat scolaire s'améliore quand les élèves voient comme quoi il y a des choses qui sont mises en place, même pour eux par rapport à leurs attentes, leurs besoins de connaissances. C'est vrai que il y a des choses que j'ai envie de remettre en place parce que c'est quelque chose qui est important. Et puis on verra vu le nombre de personnes. Et la dernière question, c'était quoi encore ?
C'était meilleurs moments, meilleurs moments de...
C'est les élèves que... Alors, moi j'aime bien, c'est toutes les fins d'année, justement, quand il y a les résultats du bac, donc que ce soit pro ou technique ou général. Donc j'essaie d'être là, près des feuilles, justement, pour voir comment ils réagissent. Et certains, justement, quand on les a rencontrés de la seconde jusqu'à la terminale, et qu'ils ont réussi, je leur dis, tu vois, tu en es capable, c'est ce que je t'ai toujours dit. Et là, ils sont contents, et puis, ouais, après, ils échangent plein de choses, moments. Et donc, ils se disent, bah oui, en fait, si j'y arrive, bah, je peux y arriver pour même la suite. Donc, voilà. Et non, ça, c'est des bons moments aussi, où quand il y a des moments, parfois, il y a aussi certains élèves qui viennent nous voir, ou certaines familles, et qui nous disent merci. Et rien que ça, c'est, ouais, c'est super. Là, ça fait plaisir.
Et maintenant, pour faire passer un message, des conseils à ceux qui veulent faire ce métier-là.
Alors, il y en a certains qui, justement, quand ils viennent me voir, me disent qu'ils veulent devenir infirmier, infirmière. Donc là, je les encourage parce que c'est un métier très riche, avec des domaines divers et variés. Voilà, il n'y a pas que hospitalière, libérale, en psychiatrie aussi, il y a éducation nationale, médecine du travail. C'est vraiment très enrichissant humainement. On apprend beaucoup, en fait, sur l'humain. On échange beaucoup. C'est très épanouissant. En fait, même pour ceux qui, par exemple, sont plutôt timides, peuvent développer justement ce contact, les échanges et l'empathie. Hein, l'empathie qui est importante. Comment comprendre l'autre sans en être affecté soi-même, mais essayer justement de le comprendre et de l'aider. Enfin, généralement, ce sont des jeunes qui, même déjà, on voit au niveau du lycée, sont déjà dans l'aide des autres et ils veulent faire là-dessus, enfin ils veulent continuer là-dessus, ou même psychologue ou certains ou médecin. Et oui, moi je les encourage parce que justement on a besoin de personnes comme ça et on voit déjà qu'il y a une fibre, il y a quelque chose en eux qui fait qu'ils vont y arriver.
Donc est-ce que c'est la relation humaine qui a plus besoin que la relation donc voilà de comme santé, de voilà de connaissance, mais plus donc savoir comment accepter de communiquer ou d'écouter, qui est plus important dans ce métier-là que voilà, d'être seulement à donner voilà, des réponses par rapport à telle ou telle souffrance ou maladie, mais plus le contact.
Il y a de l'écoute, il y a beaucoup d'écoute, oui, je trouve. C'est vrai que quand j'étais à l'hôpital, surtout en réa cardiaque, chirurgie cardiaque, on était beaucoup dans le soin technique, énormément. Après, la communication, tant que nos patients étaient intubés en réa, on ne pouvait pas trop communiquer, mais il y avait quand même quelque chose qui s'instaurait malgré tout. Et je pense que c'était aussi ça que je voulais faire évoluer. J'ai appris beaucoup. Je ne regrette pas du tout mon parcours. Mais c'est vrai que après, selon le service ou le domaine dans lequel on va travailler en tant qu'infirmier, infirmière, ça va être différent. On va développer certaines compétences par rapport à d'autres. Mais non, globalement, c'est vrai que oui, l'écoute, ça passe par là. C'est vraiment le cœur du métier d'infirmier. Parce qu'en fait, par rapport au médecin, le médecin scolaire n'est pas toujours au lycée. On est ses yeux. On est là pour lui donner tous les éléments. Et en fait, oui, l'écoute est très importante, la bienveillance, l'empathie. Et bon, il y a aussi du soin technique, hein. On en a aussi. Hein, mais c'est vrai que oui, l'écoute est sans doute avec l'empathie. Ce sont des qualités très importantes, la bienveillance.
Et dernier mot, dernier message à faire passer.
Eh ben, que les familles n'hésitent pas à nous interpeller lorsqu'elles ont un problème, s'il y a quelque chose qui ne se met pas en place ou quoi que ce soit, parce que parfois on ne peut pas tout savoir, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément dites et puis on ne pourrait pas tout retenir. Si les familles nous appellent, nous interpellent, si elles ont besoin d'aide, on est là pour les conseiller, les orienter s'il y a besoin, parce que nous, on a notre champ de compétences infirmiers, mais après on peut justement, on veut travailler avec eux au maximum. Et les élèves bah, qui viennent quand ils ont besoin. Bon, ils savent, hein, ils connaissent bien le bureau, ils savent où ils se trouvent très rapidement durant le début de l'année. Donc voilà, qu'on n'hésite pas à nous interpeller quand on a besoin.
Ah bah, vraiment, ce qu'on vient d'apprendre, voilà, par rapport à toujours chaque métier qui est donc, dans l'éducation nationale, on voit vraiment un travail qui est toujours demandé pour la réussite. De l'élève, c'est pour aussi donc améliorer, vivre ensemble dans l'établissement. Oui. Et c'est là que je vais depuis le lundi. Donc c'est toujours les mêmes réactions et aussi donc l'envie de chaque personnel de l'établissement de faire le maximum, de pas seulement compter par rapport à son service, mais aussi essayer de trouver des solutions au niveau partenariat aussi, des discussions avec d'autres personnes et surtout trouver donc les moyens qui permettrait donc d'avoir donc contact facile avec que ce soit les élèves et aussi les personnels de l'établissement et en même temps parfois c'est donner un peu de temps pas seulement être dans le technique mais aussi dans l'écoute et l'humanisme. Et oui. Merci beaucoup vraiment,
merci.
Pour avoir ça. Et ça, donc n'hésitez pas, ceux qui nous écoutent, voilà, tout le monde, toutes les personnes qui sont passées jusqu'à maintenant, ils sont là, ils vous écoutent, ils sont prêts pour vous aider. Et aussi, donc, aussi suivre donc, les problèmes que vous rencontrez, ils sont toujours présents dans l'établissement et ils ont le temps pour vous donner donc, les moyens pour comprendre et aussi savoir le déroulement de chaque, que ce soit matière, ou que ce soit rapport donc, de tel ou tel secteur de l'établissement, bah, le rôle est le même. On est là pour vous. Et merci.
Merci.